Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Aucune autre institution de l'État ou autorité administrative ne peut exercer les prérogatives dévolues à la RAC. C'est un rappel fait la semaine dernière par le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et de la chefferie coutumière, colonel Oda Balouawate. C'est un extrait d'une note adressée au préfet qui parfois confondent les rôles de la RAC au leur en menaçant des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Certains vont jusqu'à intimider l'ordre de suspendre et d'arrêter des émissions en cours, et c'est nos confrères de l'intérieur qui en font souvent les frais. Ce rappel à l'ordre sera-t-il entendu? Quels sont les mécanismes de suivi mis en place pour faire respecter ces dispositions du ministre à l'ordre de l'administration territoriale? Nous répondrons à ces questions à travers le débat, l'analyse et aussi les commentaires dans cette émission Club de la Presse de ce premier lundi du mois de décembre. Nous sommes au 2 décembre 2024. Nous aborderons certainement d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par les journaux parus ce matin. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Betomega est à la mise en onde. Gérard Akuta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nous sommes toujours très heureux quand nous savons que vous nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous nous suivez aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre page YouTube et aussi Facebook. Et également, vous nous suivez sur des radios en ligne qui sont nos partenaires, bien sûr, Ibn Radio et Radio Lébénais. Un Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et aussi de l'Afrique et du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, confrères journalistes qui a déjà répondu à notre invitation. C'est Gosson Keton Magnan. Gosson, bonjour.
Bonjour Pascal.
Je l'ai dit, président.
Des journalistes pauvres, très endettés. Je l'assume.
Ah, des journalistes pauvres, très endettés.
Oui, parce que, soyons honnêtes, un journaliste aisé au Togo, ça doit interpeller.
Comment ça, ça doit interpeller?
La vocation qui est conférée au métier, un journaliste peut, à la rigueur, être un peu à l'aise. Mais aisé, ce n'est pas possible.
D'accord, on me signale que ton micro, il semble que ton micro a un petit souci. Nous allons rapidement te changer à l'ordre de place, mais bien avant, nous souhaitons la bienvenue à Didier Assogba. Didier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditeurs de Canal FM. Et bonjour à tous les Togolais qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Et
tu as bien commencé la semaine?
Ben oui,
j'allais dire même le mois.
Oui, par la grâce, on a la vie, on a la santé. Aujourd'hui, nous sommes debout. D'autres cherchent eux aussi être debout, ne le sont pas. Donc, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir relevés parmi les vivants et de nous avoir également accordé la santé pour démarrer cette semaine, et non seulement cette semaine, mais démarrer également ce mois, ce dernier mois de l'année, un nouveau dernier mois de l'année. Et donc, nous rendons grâce. Pour le reste, ça viendra.
D'accord. Gosson, on ne peut que rendre grâce à Dieu par rapport au souffle de vie et également à la santé à nous donner.
Oui, je te le fais pas dire. À la différence que pour moi et la famille Keton Magnan, le 2 décembre sera difficilement effacé de nos mémoires, en ce sens que au lendemain du 2 décembre, c'est-à-dire le 3 décembre 1993 et le 1er janvier 1994, mes petits frères qui étaient des jumeaux étaient repartis d'où ils venaient. Donc, l'un a suivi l'autre avec moins d'un mois d'intervalle. Et donc, malgré les années qui passent, ça fait plus de 30 ans, ça ne s'oublie pas.
Ça jamais. Ne s'oublie pas.
Ça ne s'oublie pas. Donc, quand nous entamons le mois de décembre déjà, le premier, c'est la journée de lutte contre le sida, je me replonge intérieurement dans ce jour du 3 décembre et quelques semaines après, celui du 1er janvier 1994. Je suis sûr que certains n'avaient pas encore vu le jour.
Et ça dit beaucoup de choses.
Oui, mais justement, au-delà de tout, c'est la volonté divine, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Une fois qu'il dit, monsieur, je te veux, que tu sois à la selle, que tu sois en train de manger, en voyage, partout où tu es, tu es obligé de répondre présent. Puisqu'il ne demande même pas ton avis.
Justement.
Comme il n'en a pas de.
Est-ce que nous avons vraiment le choix?
Comment est-ce qu'on peut avoir le choix? Est-ce que pour venir au monde, nous avions eu le choix pour que si on doit en repartir, on en ait? Voilà la question.
Voilà la question. Alors, chers confrères, je voudrais qu'on se transporte à la fois à CETEF Togo 2000. C'est vrai que il y a une compatriote ou une auditrice de cette émission, une fidèle auditrice d'ailleurs de cette émission, qui a subi en quelque sorte une mésaventure à la foi. Nous savons que la foi bat son plein. Et cette mésaventure, elle a voulu partager cela avec nous. Je vous livre un tout petit peu le contenu de ce qu'elle nous a envoyé. Je voudrais porter humblement à l'attention alors de vous, journalistes, ce fait qui, vous, si vous pouvez alors en faire l'écho nécessaire, nous sommes arrivés vers 9h30 à la foire qui aurait dû être ouverte depuis à 9h. À 10h10, la foire n'était toujours pas ouverte. Nous qui y étions allés passer une heure de temps seulement, nous avons perdu une heure à attendre. Au sorti de là, que ne fut notre surprise de voir des sabots sur notre véhicule. À 15h passées, aucune solution n'a été trouvée et nous n'avons pas été libérés. Entre-temps, quelqu'un nous a informé que l'amende, c'est 25 000 francs CFA. Je leur ai demandé pourquoi. Ils disent que c'est la gestion de la foire qui demande que l'on ne gare pas à l'endroit où j'ai garé. Or, les photos que j'ai prises le prouvent, il n'y a pas de panneau d'interdiction de stationner ni d'agent pour nous interpeller. Il nous a été proposé de payer 10 000 francs si nous ne pouvions payer 25 000 francs CFA, ce que nous avons refusé de faire. Nous leur avons dit de nous donner un papier et nous irons nous expliquer à la mairie. Ils ont dit qu'ils ne peuvent le faire. Au bout d'un moment, ils sont venus changer le cadenas qu'ils avaient mis pour un autre plus gros. Nous voudrions attirer l'attention des autorités de la mairie, des gestionnaires de la foire et de toute autorité sur le mauvais traitement qui est réservé aux usagers, la non-ponctualité de l'ouverture de la foire et l'occasion que certains se donnent encore pour s'enrichir au détriment des usagers par la corruption. Nous avons dû laisser la voiture et partir. Ils nous ont dit que si nous voulions aller à la mairie, ce sera lundi. À qui la responsabilité du gardiennage de notre véhicule et se pose justement la question se pose hein, et alors chers confrères Gosson, je ne sais pas, vous avez écouté en quelque sorte le narratif de cette auditrice qui a subi cette mésaventure à la fois je ne sais pas si vous avez écho vraiment de ces genres de choses.
Bon, tu sais Pascal, pour un début de semaine, l'idéal c'est de d'aborder cette semaine avec calme. Mais quand tu nous lis ce genre de message, mon cœur bouillonne, même si je ne l'affiche pas.
Comment ça?
En ce sens que je pense qu'on est en face d'un fait de corruption avéré. D'abord, comme le dit l'a écrit la personne, elle a pris des images. Pour interdire le stationnement quelque part, il y a des panneaux. Et à défaut de panneaux, il faut des gens pour dire que non, ici, il est interdit de stationner. Puisque de par le passé, les gens stationnaient à tout va. Mais alors, d'abord, il faut parler de l'heure. Souvent, quand vous donnez rendez-vous aux gens, ils arrivent quand ils veulent, en arguant comme quoi l'heure africaine. C'est quoi l'heure africaine? Moi, dans notre famille, il y a cette éducation qu'on a reçue. L'exactitude, c'est de pas peut-être la religion que nous avons pratiquée, mais à l'heure pile, on commence. Que vous soyez une ou cent, on commence toujours à prêcher. Donc, on s'est fait notre cette manière d'être ponctuel. Voilà que d'abord, la foi n'a pas ouvert à l'heure juste. Donc, est-ce qu'il était indiqué là où les gens doivent garer? Peut-être que c'est des étrangers ou alors des citoyens qui sont revenus de l'extérieur pour visiter la foire. Mais voilà qu'ils ont garé, ni pas de plaque d'interdiction et de personnes pour leur expliquer que là-bas, c'est interdit de stationner. Mais à leur sortie, ils découvrent que on a mis les sabots, ce avec quoi on bloque les véhicules. Et si la mairie ne peut pas gérer ce cas, qui peut le faire? Là, on dit que l'amende est à 25 000. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que quelqu'un vienne leur dire qu'ils peuvent payer 10 000 et on va les libérer? Ces 10 000 iront où? Je vais au-delà de cette affaire pour dire que je suis toujours resté circonspect par rapport à la question de la foi. En ce sens que même la répartition des places pose problème. Je m'explique. Aujourd'hui, certains te disent la devanture de 1 mètre ou 1 mètre 50 sur 2 mètres à l'intérieur, ils l'ont loué à 50 000 ou 75 000 ou bien 100 000. Mais quand tu vas dans les explications, tu te rends compte que il y a un moment où on lance pas la promotion, la vente ou la répartition des places à la foire. Aujourd'hui, vous allez découvrir des gens qui ont acquis des espaces à la foire, mais n'ont exposé aucune marchandise. Ces gens ont plutôt revendu ces espaces-là au moment du démarrage de la foire. C'est de la spéculation, de la pure spéculation. Il serait temps que, par exemple, pour les places, tous les citoyens, tous ceux qui sont intéressés d'exposer, soient informés de la date à laquelle la vente des espaces sera lancée d'une part, et ensuite pour ce qui est du stationnement, je le dis encore, c'est de la pure corruption. Je serai à la place de cette personne que j'irai jusqu'à trouver les responsables pour crier mon ras-le-bol, parce que ras-le-bol, ce n'est pas poli. Ça ne donne pas une bonne image de notre pays.
D'accord. Disiez. Déjà, quand on voit dans la description des faits de notre compatriote, de notre auditrice, on voit que on lui a infligé alors une amende de 25 000 et par après on lui dit alors de donner 10 000 si elle n'a pas alors les 25 000. Mais on a le droit alors de se poser la question de savoir qui est en train de faire ça.
Qui est en train de faire ça, certainement c'est des agents de la mairie. D'après ce que je sais, c'est que il y a eu un partenariat entre le CETEF et la mairie Golf 2 dernièrement pour la gestion d'un certain nombre de places à la fois, notamment ce qui concerne les parkings. Il paraît que la gestion des parkings était confiée donc à la mairie, et c'est la mairie qui décide maintenant d'amender des gens par rapport à là où ils stationnent ou là où ils ne stationnent pas. Ce cas-là est révélateur d'une situation effectivement qui se pose à la fois. Il paraît que ce n'est pas le premier cas, et donc que c'est à la mairie qu'il faut s'adresser, que c'est la mairie qui doit gérer cette situation. Soit. Si c'est la mairie qui doit gérer cette situation, comme Godson le dit et comme l'auditrice l'a également dit dans le récit de sa mésaventure, il aurait fallu qu'on puisse afficher des panneaux d'interdiction de stationnement aux alentours du CTF pour justement éviter que des gens ne tombent finalement dans un piège, alors qu'il n'y avait pas de panneau ou quoi que ce soit qui leur interdisait de faire ci et de faire cela. Mais quand cela le tienne, on est déjà dans une situation, dans une mésaventure qu'a vécu une compatriote, Maintenant, il faut gérer la situation. Et il se trouve que les agents de la mairie qui sont là-bas ont dit l'amende c'est 25 000. Bon, d'abord sur quelle base et dans quel test, on ne sait pas. Et puis, à défaut de payer les 25 000 comme amende, on lui propose, voilà, comme dans les situations que nous avons l'habitude de vivre à travers le pays, de payer 10 000 pour rapidement être libéré. J'imagine peut-être que les gens ont évalué peut-être la valeur du véhicule avec, avec lequel la compatriote et sa famille s'étaient rendus à la fois pour dire, bon voilà, 10 000 ne devrait pas être un problème pour des gens qui conduisent ce genre de véhicule. Elle pourrait rapidement payer et partir, mais il y a un véritable souci. On a encore quelques jours pour que la foire se termine. Il va falloir que ce problème-là soit clarifié. C'est vrai que la direction du CETEF va dire que ce n'est pas de son ressort, que c'est la mairie qui s'occupe de ce cas-là. Mais une fois que le phénomène ou le fait est lié à la foire, je pense fondamentalement qu'il va falloir qu'on trouve rapidement un modus operandi avec, entre les deux parties, c'est-à-dire entre la direction du CETEF et la mairie du Golfe 2, pour que justement, si on doit rapidement mettre des panneaux d'interdiction aux alentours de la foire pour éviter que des gens garent n'importe où, pour qu'on se retrouve dans des cas pareils, qui donnent des possibilités à des agents de la mairie de se graisser facilement sur le dos des citoyens et également sur le dos et de la foire et de la mairie, il faut justement qu'on clarifie cette situation, on mette les panneaux rapidement et qu'on définisse clairement, qu'on communique clairement le montant de l'amende. Si quelqu'un tombe sous le coup de l'amende, qu'on définisse clairement le montant de l'amende, que tout le monde sache que l'amende c'est tel montant, pour éviter justement qu'il y ait des pans de corruption, des possibilités de corruption des uns des autres, et éviter également à ce que d'autres compatriotes qui ne sont pas au parfum de tout ce qui se passe dans les environs de la foire, qui veulent juste visiter, quelqu'un qui vient d'Atakwame, qui ne sait pas comment ça se passe, qui vient avec son véhicule, veut juste garer, mais s'il n'y a pas de panneau, s'il n'y a pas d'indication, il est vite tombé dans le panneau. Donc, il faut justement qu'on trouve un moyen de clarifier cette chose-là, parce qu'on est dans la dernière semaine de la foire. Je pense que c'est des petits faits qu'on peut rapidement régler, tant au niveau de la direction de la foire qu'au niveau de la mairie Golfe 2, pour éviter des situations pareilles.
D'accord, nous sommes rejoints par Jacques Dzakouti. Jacques, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, bonjour à mon ami personnel, tous ceux qui sont actuellement dans les hôpitaux qui nous écoutent, je voudrais également les saluer. Pascal, j'ai vu un truc la semaine passée qui m'a un peu tiqué, c'est au niveau de la maison d'Adebayor, sur le pavé de Dijolé. Vous savez, il y a certains malvoyants qui essaient de traverser la voie pour aller à l'université de Lomé. Mais ce que j'ai constaté, c'est que Pascal, aucun ne s'occupe de ces malvoyants. Ça m'a vraiment touché. Je voudrais demander à nos compatriotes d'être un peu plus humain en faveur de ces compatriotes. Parce que le constat, Godson, c'est que vous savez ce qu'ils font. Un avance un peu pour tendre son oreille pour voir si il y a pas un bruit avant que les autres là ne puissent passer. Et vous voyez, lorsque l'autre avance, vous voyez les tricycles là souvent, ça, jusqu'à ce que l'autre ne s'en rende compte, le tricycle a ramassé. Vous voyez, donc je voudrais sincèrement demander à nos chers compatriotes d'avoir plus vraiment d'attention à ces... Je crois qu'ils sont quatre ou trois étudiants comme ça, malvoyants, qui traversent la voie là, chaque fois pour aller à l'université. Ils marchent, ils sont à pied. Ils marchent souvent à pied, ils contournent vers... Quand ils traversent l'autre pavé, ils prennent le pavé de Agbenpedo là. Oui. Voilà, pour continuer, aller ressortir... vers le rond-point de Togossel avant de pouvoir avancer. Bon, pas Togossel, il n'y a plus Togossel. Yass. Voilà, donc.
D'accord. Maintenant, oui, Jacques, nous sommes en train de parler de ce phénomène, cette mésaventure qu'une compatriote a subie à la foire
et déjà ce qu'elle dénonce dans cet écrit, dans ce récit qu'elle nous a envoyé, c'est bien le retard et aussi la corruption.
Oui, bon, vous savez, je ne sais pas comment le parking est géré là-bas. Qui gère le parking de cette foire? Il faut chercher à savoir qui gère le parking. C'est la mairie qui gère.
Oui, c'est la mairie. Voilà. Mairie du Golfe 2.
Voilà. Même si c'est la mairie du Golfe 2 qui gère le parking, la sœur en question a garé où? Elle a garé le véhicule où? Est-ce que c'est dans le périmètre de la foire ou bien c'est hors périmètre de la foire qu'elle est allée garer? Donc, je crois que c'est des informations qu'il faut disposer. Si, par exemple, la sœur a garé hors parking, les autres là n'avaient pas le droit d'aller encore sceller les je crois qu'ils ont scellé ses pneus, non?
Oui.
Donc ils n'avaient pas le droit parce qu'elle a garé hors parking.
C'est tellement hors parking parce que il paraît que l'amende c'est pour stationnement sur la voie publique.
D'accord. Voilà, ouais, donc que... peut-être que elle a garé hors parking, même si c'est ça. L'amende là est trop, vous voyez. Je me rappelle une fois, j'étais allé au niveau du Grand Marché, vous voyez, au bord de la mer. J'ai garé là-bas, j'ai déposé ma fille, elle voulait acheter quelque chose. Le temps qu'elle revienne pour qu'on parte, je crois que l'agent ne savait pas que j'étais dans la voiture, parce que j'ai dû... J'étais couché dedans, il ne savait pas. À un moment, j'entends les trucs là serrés, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je sors et voilà l'agent. Lui aussi ne savait pas que j'étais là. Il dit, ah monsieur, vous avez mal stationné. Il dit, non, s'il fallait stationner, je serais parti. Mais je suis dans la voiture, je n'ai pas mal stationné, monsieur. Je suis dans la voiture. Bon, finalement, bon, il ne savait pas quoi faire. Il tournait. Finalement, il est parti. Non, c'est pour vous dire que quelque part, vous savez, quand on parle de mal stationné, des fois, les gens ne savent pas qu'il ne faut pas garer là-bas. Ça, les gens ne maîtrisent pas certaines choses. Et l'autre aspect, par rapport à la foire, les gens devaient quand même comprendre. C'est une foire. C'est-à-dire que vous n'avez pas, même si elle a mal garé, il fallait seulement peut-être la parler et dire, madame, tu n'as pas bien fait. Et puis bon, ça passe. Mais voilà, la demander qu'elle puisse payer les 25 000, est-ce qu'elle a finalement le reçu?
Non, c'est ce qu'elle a demandé. Voilà. Et on a refusé quand même de lui donner.
Non, ça c'est une escroquerie. Donc, si elle avait le numéro de ces personnes-là, il faut directement signaler ces gens-là au directeur du CETEF.
Mais finalement, elle a refusé aussi de payer les 10 000.
Voilà. Donc, mais elle a raison. Si je vais payer Pascal 25 000 et ne pas avoir le reçu, mais vous voyez que ça va tomber dans la poche de quelqu'un et il est parti. Donc ça, vous avez bien fait d'évoquer ce sujet et ça doit également attirer l'attention du responsable du CETEF à revoir une fois encore cet aspect sécuritaire aux alentours effectivement de la foire et qu'il sache également qu'il y a des escrocs qui sont autour effectivement du CETEF là qui risquent de lui créer des problèmes inutiles. Donc, c'est une alerte que vous venez de lancer. C'est à lui maintenant de prendre les responsabilités. Essayez de voir comment effectivement corriger cette situation.
D'accord. Alors, nous allons quitter le sujet. On s'intéresse à ce sujet que j'évoquais déjà dans mes mots introductifs. C'est bien déjà ces préfets et également certaines autorités à l'intérieur du pays qui intiment même d'ailleurs l'ordre à certains journalistes ou menace certains journalistes alors dans l'exercice alors de leur fonction et intime l'ordre à certains journalistes alors de suspendre des émissions et il y a une interpellation également du ministre de la décentralisation et dans cette note le ministre, je lisais même d'ailleurs un extrait de cette note et le ministre dit aucune autre institution de l'État ou autorité administrative ne peut exercer les prérogatives dévolues à la RAC. Et dans ce nom, il n'y a pas quand on a déjà la RAC on a confié même d'ailleurs un certain nombre de missions par rapport même à la communication et tout. Mais toujours est-il qu'il n'y aura pas alors quelqu'un d'autre, une autorité ou une autre institution quand même qui doit jouer ce rôle.
Bon, tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Le communiqué du ministre n'est pas mal, mais je suis resté sur ma soif.
Comment ça?
En ce sens que... Si les raisons pour lesquelles le préfet s'est permis de faire arrêter l'émission étaient fondées, La RAC suppresse toutes les radios sur toute l'étendue du territoire. On aurait invité, pas convoqué, la RAC ne convoque pas, elle aurait invité le responsable de cette radio-là pour des échanges ici, au siège. Mais cela n'étant pas fait, ça veut dire que le média n'a violé aucune loi. Mais alors, le ministre ne devrait pas s'en tenir seulement à ce communiqué-là. On doit faire déplacer le prétendu préfet et lui demander des explications. Parce que c'est trop facile de noyer un fait dans un communiqué. Il y a, les préfets, certains, je précise, estiment qu'ils ont le droit de vie et de mort sur leurs administrés. Même sur les journalistes qui sont ici. Je m'explique. Il nous arrive d'avoir des informations. Par exemple, sur un préfet, celui de Tône 1, à Dapaon. On ne va quand même pas me dire que pour demander une information, Gosson doit sauter dans un véhicule, parcourir 600 km pour aller lui poser la question et revenir. Surtout à l'ère du numérique. Parfois, nous prenons la peine d'envoyer un message WhatsApp et de l'accompagner avec notre carte de presse pour attester que c'est telle personne qui demande cette information. Soit c'est pas le préfet ou alors c'est le procureur qui demande à ce que tu te déplaces pour venir chercher l'information. C'est une aberration. Un manque de respect de la loi à la de la loi portant liberté de presse et de communication. Du moment que la personne qui sollicite l'information vous a envoyé sa carte d'identité ou sa carte de presse, quand même, vous n'allez pas nous dire qu'un préfet qui est à Dapaon, qui a besoin d'une information ici, envoie au 21e siècle du courrier avec WhatsApp. Tous les documents sont envoyés. Pourquoi on parle de l'ère du numérique? Quoi qu'on dise, du moment que vous connaissez l'identité de la personne au bout, vous devez vous exécuter. Le préfet, ce n'est pas le tout-puissant. Il faut que ceux-là qui ont encore en tête le rêve de gouverner, d'administrer la préfecture comme ils veulent, il faut que ça tombe bien dans leur tympan. Ils sont au service des citoyens. Ils ne sont pas au-dessus. Même le ministre, en mina facile, veut dire serviteur du peuple. Qu'en sera-t-il pour le préfet? Très bientôt, ce même préfet aura un de nos messages. On verra comment il va réagir. D'accord. Parce qu'il n'est pas, à son coup d'essai.
D'accord. Alors, oui, Didier, c'est vrai qu'il y a des menaces, il y a des difficultés que nos confrères de l'intérieur endurent par rapport à l'exercice alors de leur fonction. Il y a nos confrères de Radio Courtoisie qui en ont fait les frais tout récemment avec le préfet. Et je pense que c'est sur la base de cela que le ministre a fait sortir ce communiqué.
D'abord, saluer ce courage du ministre et cette honnêteté du ministre à pouvoir réagir sur ce fait, cet incident qui s'est produit et à reconnaître, même s'il ne le dit pas en des termes clairs dans son communiqué, à reconnaître que les préfets outrepassent leurs prérogatives et ils cherchent à faire au-delà de ce qu'on leur demande de faire de leur rôle habituel de préfet et se prennent pour des supermen de la République ou de la même, voilà, comme Gosson le dit, la plupart d'entre eux pensent qu'ils ont le droit de vie et de mort sur un certain nombre de personnes dans les préfectures. C'est une aberration. Vous êtes préfet, on anime une émission que vous suivez, vous êtes d'accord ou pas? Nous sommes dans une république, on dit, voilà, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore aboli la démocratie dans la république. Non, à moins qu'on ait aboli la république, enfin, on ait aboli la démocratie dans la préfecture de Tône là-bas, mais jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas cette information. Donc ça veut dire que même à Dapaon, des gens ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent dans les règles de l'art. Et surtout s'ils sont journalistes, qu'ils respectent les règles d'éthique et de déontologie de leur métier, ils respectent les règles du code de la presse et de la communication, ils peuvent naturellement faire leur travail. Mais il ne revient pas à un préfet d'interdire une émission. Et c'est pas la première fois. C'est ces gens-là, c'est leur habitude. Hein. Là, on parle de Thône. On parle de Dapaon. On peut multiplier les hommes sur toute l'étendue du territoire. Comment est-ce que des préfets appellent pour suspendre des émissions, pour menacer des journalistes, pour leur dire de ne plus continuer des émissions et demander à nos confrères de l'intérieur du pays combien d'émissions n'ont pas été suspendues juste parce qu'un préfet a estimé qu'on ne devrait pas parler de telle chose dans la préfecture. Donc, le ministre a commencé quelque part et je salue ce courage-là. Mais maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est de peut-être faire réparer le tort qu'ont causé la plupart de certains préfets, pas seulement dans la préfecture de Thône, mais dans la plupart des autres préfectures, en peut-être en menant une petite enquête auprès des médias de ces préfectures-là pour voir comment est-ce que les préfets se comportent envers les journalistes et les directeurs de ces médias-là et pourquoi est-ce que la plupart des fois des confrères de ces médias-là ne se sentent pas épanouis, ne peuvent pas exercer librement leur travail. La HAC est là pour réguler les médias. Les préfets, eux, ils représentent l'autorité centrale là-bas, pas pour réguler les médias. S'il y a un problème, le préfet, si un préfet se sent peut-être, voilà, je ne sais pas, si un préfet a un problème avec un média, le préfet n'a qu'à saisir la HAC va inviter les médias. Ou bien, on a déjà vu des ministres, qui ont saisi la HAC, Gosson ne va pas me démentir. La HAC a géré des cas. Donc, si les préfets se sentent lésés dans le fonctionnement d'un certain nombre de médias, ce qu'ils peuvent faire, c'est de respecter la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Donc, courage à monsieur le ministre, mais je l'exhorte à continuer jusqu'au bout et à surveiller les préfets qui ont droit de vie et de mort sur, pas seulement les journalistes, mais sur d'autres citoyens qui décident des choses chez eux-là. Eux, ils gouvernent le Togo selon leur façon de voir et selon leurs humeurs. Il faut que ces choses-là changent dans la République, surtout que nous sommes dans une nouvelle République.
Il faut que ça change dans la République. Jacques, c'est vrai que c'est un fait récurrent qu'on rencontre à l'intérieur du pays et nos confrères sont vraiment victimes alors de cela. Mais le problème, c'est que il n'y a personne quand même pour les défendre.
Non, Pascal, il faut reconnaître quand même que, disons, que ça va un peu maintenant. Un peu, ça va un peu par rapport au temps passé.
Le temps passé, c'était plus...
Je suis mieux placé pour vous parler.
Oui.
C'est-à-dire, on avait effectué une tournée à l'intérieur du pays. Je ne veux pas donner le nom de ce préfet. Et arrivé, les confrères ont voulu qu'on fasse une émission en direct. Et bon, le directeur avait peur. Il a dit non, qu'il faut qu'on aille d'abord voir le préfet, que je lui dise ce que je vais dire avant de revenir animer l'émission. Vous voyez, donc c'était compliqué. Donc aujourd'hui, ça va. Ça va. Et vous savez, pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est réellement passé chez nous, à Dapaon avec cette radio. Le préfet a pris fin pour cause pour une famille par rapport à l'élection d'un chef. Et vous savez, c'est la famille Thiem, au fait. C'est Thiem de Pana. Il y avait une élection. Le préfet était immiscé dans cette élection et on a vu ce qui s'est passé. C'est un repli de justice qu'on a finalement choisi à la place de celui qui devait être élu comme chef traditionnel. Donc c'est le préfet qui avait tout manigancé. Et finalement, je crois qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, on avait donné des gages à ce que l'élection puisse, on puisse reprendre l'élection. Donc, vous voyez, c'est une émission interactive qui devait être animée sur cette antenne. Vous voyez que les gens risquaient de déballer tout ce que le préfet, voilà, le préfet.
Surtout qu'ils sont tous au courant.
Voilà. Donc, au fait, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il a menacé les gens et tout ça. Comme Didier l'a dit, je salue le courage du ministre, du colonel Odabalo, par rapport à la décision. C'est vraiment une bonne chose. Un préfet ne doit pas être au-dessus d'une institution. La HAC est là pour ça. S'il y a un problème, c'est la HAC qui doit quand même intervenir. Le préfet a quoi à foudre avec les médias? C'est vrai que c'est dans sa juridiction, mais c'est un problème. Mais c'est le président de la HAC qui prend ses responsabilités et essaie de ramener effectivement l'ordre au sein des médias. Je crois que si le ministre n'avait pas fait ça, mais on risquait d'avoir des problèmes. Chaque préfet pouvait se lever maintenant, même fermer des radios. Je me rappelle quand j'étais à la tête du CONAP, il y avait même un préfet qui voulait fermer une radio parce que la radio n'a pas payé les redevances du Butodra. Pas de l'RTP dans le temps, RCEP maintenant, de Butodra, parce que la radio n'a pas payé les redevances. Donc il faut qu'on ferme la radio.
Mais j'ai dit non, monsieur. Et c'est le préfet qui vous le fait.
J'ai dit, monsieur le préfet, en quoi ça vous regarde? Vous n'êtes pas le ministre de la Culture. Vous n'êtes pas le ministre de la Communication. Vous n'êtes pas le président de la HAC. En quoi ça vous concerne? Est-ce que vous êtes artiste? Vous n'êtes pas artiste. Vous ne gérez pas l'hôtel pour dire que bon, la radio joue et puis bon, vous vous levez finalement pour... Mais Dieu merci que le commissaire de la localité avait compris, et c'est lui qui l'avait vraiment finalement appelé à la raison et finalement il a laissé tomber. Sinon, il a appelé le commissaire d'aller fermer la radio parce que la radio n'a pas payé les redevances de Butodra. Mais ça n'a pas de sens. Donc, c'est pour vous dire, c'est pourquoi je disais que tout à l'heure, les choses sont quand même... les choses ne sont plus comme avant. Avant, je vous dis, un préfet pouvait donner l'ordre parce qu'on n'a pas payé le Butodra. La radio n'a pas payé les redevances du Butodra. On ferme. La radio, par exemple, n'a pas payé les factures d'électricité. La société fait des va-et-vient. Et le préfet appelle pour qu'on ferme.
Non, ce n'est pas le rôle du préfet.
Je sais ça. C'est pourquoi je vous dis que maintenant, les choses, quand même, il faut reconnaître que les choses ont évolué. Les choses ont évolué avec les confrères de l'intérieur. Ça va, même les émissions interactives, c'était vraiment compliqué. Pour qu'on puisse relayer les émissions de Canal FM à l'intérieur, je sais ce que la pression que les radios subit. Donc, c'est pour vous dire que la décision du ministre Dabalo est une bonne décision. Il faudrait qu'il continue par parler au préfet. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas le rôle d'un préfet d'interdire les émissions sur une radio. C'est pas bien.
D'accord. Oui, mais Gosson, qu'est-ce que le ministre doit faire, puisque vous dites que vous êtes resté sur votre soif par rapport à ce communiqué à l'ordre du ministre. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes de suivi à mettre en place pour que de tels actes ne soient plus posés par les préfets?
Avant de te répondre, je dirais que on doit pouvoir donner une dénomination à ces gens de préfets. Les préfets, les guédettes, qui mettent leur bout dans ce qui ne les regarde pas. Maintenant, pour en venir au mécanisme à mettre en place, simplement, par exemple, ce communiqué nous a édifiés. Si dans une ou deux semaines, le ministre prend tout son courage de colonel et sort un autre communiqué comme quoi il a eu des échanges avec ce préfet, ou alors avec les préfets, ou certains préfets, à ce sujet, là, vous serez, tout ne sera pas dit dans le communiqué. Mais on lira entre les lignes que, après ce communiqué, il a fait encore un pas. Et là, ça voudra pour tous les futurs préfets, les guédettes, qui voudront mettre leur bouche dans ce qui ne les regarde pas.
Est-ce que ce n'est pas la HAC aujourd'hui de prendre aussi ses responsabilités quand le ministre a fait sortir une telle note ou un communiqué?
Oui, mais laquelle HAC qui a actuellement, est-ce qu'elle est en transition, est-ce qu'elle n'est pas en transition? C'est beaucoup plus compliqué que ça n'a l'air. Et donc, surtout qu'on parle de préfet, et la plupart de nos préfets sont militaires, donc il faut un ministre colonel militaire pour pouvoir mettre la bouche dans cette affaire et remettre un préfet donc à sa place, naturellement. Et donc, la HAC, elle va se contenter seulement des tests. Et on aurait peut-être interpellé cette HAC-là véritablement si elle également avait fini sa phase de transition, de renouvellement et tout ça. Donc vous voyez, quand des gens sont là mais ne sont pas là, ou ne savent pas s'ils sont là ou ils doivent être là. Donc vous voyez un peu, donc c'est beaucoup plus compliqué avec notre HAC actuellement. Donc puisque ça, ce n'est plus dans la République là, ce n'est plus HAC, non, c'est la RCM ou quelque chose comme ça. Donc on est en train de voir est-ce que c'est la HAC qui doit réagir ou si c'est la RCN. Donc le temps qu'on trouve cela, on laisse quand même le temps au ministre colonel de pouvoir gérer tout ça d'abord.
Mais je crois que parlant de la HAC, il faut reconnaître que la HAC s'est investie dans ce dossier. c'est des choses qu'on ne peut pas dire sur les antennes, mais la HAC a joué effectivement son rôle dans ce dossier. Donc je ne voulais pas aller trop loin dans ce que la HAC a fait par rapport à ce dossier.
Mais surtout que la HAC a aussi ce rôle de protecteur des journalistes.
Oui, mais c'est ce qui a finalement poussé effectivement le ministre à sortir cette note. Donc c'est pour vous dire que c'est dans le sillage de ce que la HAC a fait que finalement le ministre a réagi. Parce que donc c'est pour vous dire que la HAC a fait un travail.
Ça, d'accord. Dans ce nous allons aborder cet autre sujet que vous évoquez à la une de votre journal Liberté ce matin. Vous écrivez gestion hasardeuse au sommet. Le Togo sous Faure Gnassingbé presque vendu aux étrangers. 12 immeubles publics mis en usufruit pour un prêt de 150 milliards auprès de la BID. Qu'est-ce qui se passe, Gosson?
Bon, cette question, c'est normalement au ministère de l'économie et des finances qu'il faut l'adresser. Nous avons juste fait le constat comme quoi, contre des prêts, le pays a mis en garantie une douzaine d'immeubles. Parce que la BID, je crois, c'est la Banque Islamique de
Développement.
Voilà, c'est. Ils ont. C'est comme le profit ou l'intérêt chez eux n'est pas très encouragé. Et donc, pour octroyer des prêts au pays, ils exigent des contreparties en biens immeubles. Donc, quels sont ces immeubles qui ont été mis en garantie contre ce prêt de 150 milliards de la BID, pour peu que les auditeurs sortent le nécessaire pour acquérir l'exemplaire de Liberté, ils ne liront pas que ça. Parce que, reprends le titre, tu verras. Je vais rebondir.
D'accord, si je reprends le titre, oui. C'est que vous dites gestion hasardeuse au sommet, le Togo sous Faure Gnassingbé presque vendu aux étrangers.
Voilà, donc à part les étrangers, nous avons aussi parlé des rues qui sont normalement les réserves de l'État, mais qui sont occupées ou vendues par des citoyens avec la complicité ou pas des mairies ou des agents du service du cadastre.
Oui, justement, sur ce sujet, vous titrez « Dégapissement des réserves administratives des rues loties avec la complicité des agents des mairies et du cadastre ». Vous vous interrogez.
Oui, vous verrez bien que nous avons illustré l'article avec un numéro de rue pour vous dire que ce n'est pas de l'invention. Nous sommes allés sur le terrain spécialement dans le Golf 7 et dans Golf 2, vous verrez que des rues qui avancent, mais qui sont bloquées par des habitations. Des agents de la mairie, plus spécialement la division des services techniques, s'y sont rendus, ont constaté les faits. Mais à ce jour, ceux qui ont occupé les rues ne sont pas dérangés. Le plus grave, c'est à Thiégou. On ne finira jamais d'en parler. Comment, si vous y allez aujourd'hui, vous verrez la plaque sur laquelle c'est écrit réserve administrative. On parle de la rue 368 à Hidjanaoui. C'est une trentaine d'arts. Ça fait 5 lots qu'un certain monsieur Richard a fait lotir et en a obtenu le titre foncier. Après, on vous parlera de rétrocession. Or, dans nos recherches, il est avéré que quand l'État a une réserve, qu'il rétrocède aux collectivités, c'est acté par un arrêté de rétrocession. Nous avons pris contact avec les propriétaires qui ont vendu le terrain, qui disent avoir vendu le terrain à l'acquéreur, pour lui demander copie de l'arrêté de rétrocession. Ils disent qu'ils n'en ont pas. Qui a rétrocédé la chose, la voie publique? On a invité l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'État. Et, on ne l'a pas dit, on l'a oublié, la APLUSIA à se pencher sur ce dossier pour libérer la devanture des gens. Parce que si, dans certaines communes, des citoyens forts de leur bourse peuvent se permettre de lotir des rues, ne soyez pas surpris que demain, le boulevard circulaire ou alors les grandes voies n'existent plus. Il faut que à César, ce qui est à César et à Dieu, ce qui doit lui revenir, lui revienne.
D'accord. Disais, c'est vrai que c'est un sujet délicat, ce sujet alors de réserves administratives qui sont occupées, des réserves administratives qui sont occupées hein, par des individus ou du moins des concitoyens. Alors, et que peut-être ces gens-là, entre-temps, vous avez suivi même d'ailleurs le communiqué des trois ministres qui donnaient même un délai de un an pour qu'on arrive à quitter les lieux. Mais justement, nous en parlions même le vendredi dernier avec le directeur du cadastre que nous avons reçu en invité ici au Club de la Presse. Mais il disait, finalement, quand tel que Gosson décrivait le récit tout de suite, on comprend qu'il y a des individus ou du moins des gens qui sont plus forts que l'État finalement.
Bon, plus riches que l'État et donc plus riches et plus rapides. Oui, je ne dirais pas plus fort parce que quelqu'un dira que l'État est un monstre froid. Un monstre mais froid, le jour où il va se réchauffer, l'État fera quand même des dégâts. Mais ce que je constate que c'est que l'État a des réserves, n'a pas les moyens de les exploiter, mais des individus sont plus riches et donc en un temps record, ils arrivent à s'acquérir la réserve de l'État et à faire rapidement jusqu'à faire les papiers titres fonciers chez l'État lui-même rapidement et à bâtir, voilà, et ériger des domaines et personne ne dit rien. C'est ce qui est plus compliqué, c'est ce qui est plus ahurissant. De toute façon, tout ce qu'on dit là, ce n'est pas toi et moi quand même. Ce n'est pas des gens comme nous. Gosson disait que nous là, on ne peut pas avoir de l'aise comme certains pour s'acquérir jusqu'à voilà tout un domaine de l'État, faire lotir, avoir 5 lots et se faire établir le titre foncier dessus. Donc ça veut dire que c'est des gens quand même voilà d'une certaine trempe, des gens qui des fois se privalent d'une certaine protection. Des fois même y compris au sommet de l'État, dans les milieux plus introduits, et qui ont les moyens, donc ils veulent pas aller vivre très loin du centre-ville. Donc s'il y a une réserve de l'État quelque part, ils déploient de l'argent pour rapidement avoir un papier dessus. Après ils vont dire oui, j'ai un titre foncier. Ça n'absout pas le fait que il s'agissait quand même d'un domaine de l'État. Donc à partir de ce moment-là, il revient à l'État de rapidement, cette enquête a permis de voir la proportion dans laquelle les domaines de l'État sont occupés, mais maintenant de voir si c'est possible de voir quels sont le profil des gens qui ont morcelé les domaines de l'État et qui y habitent aujourd'hui. Et là, on saura rapidement quoi faire. Et comme on l'avait dit la dernière fois dans ce studio, au sujet des rues là, il n'y a pas de débat. Tous ceux qui ont obstrué les rues de l'État en y érigeant leur habitation, il faut clairement leur dire, il faut qu'on débouche les rues. Il faut qu'on débouche clairement les rues parce que il faut que les uns et les autres se rendent chez eux. Et donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on débouche les rues le temps qu'on essaye de voir pour les autres domaines. Donc c'est un travail qu'il revient à l'État de faire. C'est vrai qu'on a dit un délai d'un an d'ici à novembre 2025. Mais pendant ce temps-là, il faut quand même que ce qui est à récupérer, on récupère au plus vite, c'est les rues.
C'est les rues. Alors, Jacques, des gens qui occupent les réserves administratives et des fois, tel que Gosson l'a dit, il y a même des plaques qui signifient que non, ici, c'est une réserve administrative et pourtant, on l'occupe.
Oui, bon, vous savez, Pascal, ce phénomène est un problème pour l'État. C'est vrai que le gouvernement, les trois ministres ont sorti un communiqué, mais le vrai problème, c'est que quand vous lisez le communiqué, il s'est dit que ceux qui occupent d'une façon illégale, les réserves. C'est ce que le communiqué a dit.
Oui.
C'est ce que le communiqué a stipulé. Mm. Donc, ce qui veut dire que d'autres occupent d'une façon légale, alors.
Ah, d'accord.
Donc, oui, c'est ça. S'il y en a qui occupent illégalement, ce qui veut dire qu'il y en a qui occupent légalement. C'est ça. Parce que je ne peux pas comprendre que d'autres puissent avoir les titres fonciers sur les réserves.
C'est incompréhensible.
Non, ça, c'est pas incompréhensible. Ça, c'est ceux qui occupent d'une façon légale, ça, qui ont les titres fonciers. Ceux qui occupent d'une façon illégale n'ont pas les titres fonciers. Donc, ce qu'il faut voir dans cette affaire maintenant, qui a libéré, et du côté de ceux qui sont légaux, et qui a libéré du côté de ceux qui ne sont pas légaux. C'est ça, c'est le travail de fond qu'il faut maintenant faire. Parce que quand vous écoutez les gens vous disent qu'ils ont les titres fonciers sur les réserves sur lesquelles ils sont. Donc c'est pour vous dire que quelque part, et le communiqué du gouvernement l'a bien stipulé, ceux qui occupent d'une façon illégale. Donc quand on dit qu'il y a illégalité, il y a légalité quelque part. Donc, et quand vous écoutez les compatriotes, certains vous disent qu'ils connaissent des gens qui occupent des réserves. Donc, c'est pour, donc ça, c'est la responsabilité aujourd'hui. Je voulais interpeller nos députés. Il faudrait que les députés se saisissent de ce problème. C'est à eux de trancher cette affaire. Parce qu'ils sont de l'émanation du peuple. Et quand on parle de députés, les députés maîtrisent les circonscriptions. Les députés maîtrisent, par exemple, les quartiers. Ils savent. Parce qu'il y a les chefs de quartier, il y a les CDQ, il y a les mairies et tout ça. Ils pourront se renseigner pour mieux, effectivement, porter ce problème à bras le corps au niveau de l'hémicycle, pour vraiment pouvoir trancher cette affaire. Par rapport aux rues dont Gosson évoquait tout à l'heure, mais ça, il ne faut pas attendre. C'est-à-dire que c'est une rue. Et puis quand vous circulez dans Romeu, ça c'est un constat, on le voit un peu partout. Vous prenez une rue, vous êtes bloqué quelque part. Et quand vous êtes obligé de retourner. Et quand vous posez la question, mais qui a construit là-bas, quand vous donne le nom de la personne, vous comprenez. Oh ouais, donc c'est pour vous dire que quelque part, moi j'ai dit, c'est vrai le communiqué du gouvernement, mais il est important aujourd'hui que l'Assemblée nationale s'empare de ce problème pour faire effectivement la part des choses qui a donné d'une façon légale et qui a donné d'une façon illégale pour voir effectivement ce qu'il faut faire.
Hmm. Alors oui, mais Gosson, aujourd'hui, puisque le gouvernement donne un an de délai à ces gens-là qui occupent illégalement ces réserves administratives. Mais toujours est-il que la question est de savoir comment le gouvernement va-t-il procéder, surtout soit au dégabissement ou je ne sais pas s'il y aura des dommages.
Ça, il faut poser la question au ministre de l'administration territoriale. Ce qui me fait rebondir est que tout à l'heure, Jacques parlait d'occupation légale et d'occupation illégale. Le communiqué fait référence aux occupations illégales.
D'accord. Si tu le permets, je vais te couper pour un instant parce que voilà, nous avons en ligne les responsables, alors de l'un des responsables, j'allais dire du CTF, puisqu'on parlait de leur sujet tout de suite. Et ils veulent vraiment intervenir pour nous situer sur ce fait. Alors bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, à qui avons-nous honneur?
Alors, moi, c'est Gilles Baba.
Ah, c'est Gilles Baba.
Je suis consultant média radio au CTF.
D'accord. Alors, Gilles, c'est vrai que nous évoquons un sujet déjà au début, alors, de cette émission. C'est par rapport à une mésaventure que l'une de nos compatriotes a subi. Alors là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous êtes aussi au courant de ce fait?
Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le travail que vous ne cessez de faire. Vous savez, d'autres peut-être vont s'énerver, mais plutôt nous sommes contents ici parce que j'ai eu à faire une séance de travail rapide avec le directeur en charge de la communication et du commerce sur l'élément parce qu'on nous l'a envoyé rapidement. Il y a une équipe de veille qui suit tout ce qui se passe sur les médias et qui nous envoie les retours, mais je pense que c'est ce travail que vous avez fait, ça sincèrement la main sur le cœur, Pascal, merci, et merci à vous tous, parce que ça nous permet, si nous dormons, de nous réveiller, ça nous permet, s'il y a des soucis, de les relever, et ça nous permet, si nous avons des failles, de les corriger. Donc, sincèrement, mettez-vous à l'aise, c'est pas pour un démenti, mais c'est pour un éclaircissement.
D'accord. Alors, concrètement, pour ce qui concerne l'éclaircissement, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, voilà. Justement, la première information, c'est concernant l'heure de l'ouverture des stands. Dans le programme, à 9h, nous avons mis ouverture des pavillons. L'ouverture des pavillons ne concerne que les exposants. Et à 10h, c'est à partir de 10h que la foire ou le site est ouvert aux visiteurs. C'est-à-dire que les exposants ont une heure de temps de s'installer pour ouvrir leur marchandise avant que les visiteurs n'arrivent. Donc, si un visiteur, quelqu'un qui n'a pas un badge, qui veut rentrer avant 10 heures, ce n'est pas aisé dans la mesure où c'est vrai qu'il allait servir de sécurité, mais s'il arrivait que quelque chose se perd dans une allée, vous voyez que ça relève encore de la responsabilité du travail que fait le CETEP par le biais du service de sécurité.
D'accord.
Vous me suivez?
Oui, je vous suis.
D'accord. Ça, c'est la première. Donc, pour toute information, ça, je peux dire, la foire s'ouvre aux visiteurs à partir de 10 heures.
Et pour les exposants, c'est plutôt à 9 heures.
Allô?
Oui, je dis pour les exposants, c'est plutôt à 9 heures. C'est à tous les pavillons. Je vous suis.
D'accord. Maintenant, concernant la dame dont le véhicule a été, on a passé la séance sabot à son véhicule. Je peux vous dire que, écoutez, sincèrement, tout d'abord, ça fait mal de savoir que la dame a subi cela. Moi-même, malheureusement, j'ai eu à subir ça l'année passée au niveau de la grande quinzaine commerciale. Mais le fait de placer les sabots ne relève en aucun cas d'une institution publique ou privée. Quand on place un sabot, ça relève de la mairie. Ça relève de la mairie. Et malheureusement, nous n'avons pas information de savoir là où la dame a eu à garer pour savoir si elle est en infraction, si le permis est utilisé ou pas. C'est vrai, dans vos propos, vous avez été très, 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 très professionnel. Vous l'avez dit, qu'on n'a pas vu de panneaux et autres. Bon, c'est ce qu'elle a dit. Maintenant, je pense que sur ce sujet, il est important à la dame d'aller voir les services compétents de la mairie pour qu'ensemble ils puissent convenir de ce qu'il y a lieu de faire.
D'accord.
Sinon, le CTF ne saurait régler ce souci. Si c'était dans les cordes du CTF, je pense qu'on allait régler ça dans les minutes et vous dire pour qu'on puisse tous puissent applaudir, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Gilles Baba, pour ces éclaircissements que vous venez alors de nous donner, compte tenu alors de cette mésaventure que la compatriote a subie à la foire. Et donc là, on est situé, Gosson, on est situé par rapport à ce fait. Mm-hmm. Et Gosson, vous étiez en train de dire quelque chose avant que je ne vous coupe.
Oui, rapidement. Le communiqué parle d'occupation illégale. Et Jacques dit donc qu'il y a des occupations légales des réserves. Sur ce plan, je voulais dire, même quand on constate que la personne a légalement occupé le terrain, il faut que ça soit attesté par les papiers. Dans le cas de Tiégou, je vous dis que la personne brandit un titre foncier qui, à première vue, est légal. Mais pour obtenir le titre foncier sur une réserve, il faut que ça soit soutenu par un arrêté de rétrocession de la réserve par l'État. Du moment qu'il n'y a pas cet arrêté, mon ami, c'est les hommes qui ont donné ce titre foncier. S'ils n'ont pas fait le travail comme il faut, souffrez que je vous dise que le monsieur qui a occupé les 5 lots là-bas soit dans l'illégalité. C'est pas parce qu'il a le titre foncier que c'est légal, non. Maintenant, pour ceux qui ont illégalement occupé, ça veut dire que eux, ils ne détiennent aucun papier, donc aucun arrêté. Donc, ça peut être légal, mais quand on fouille en dessous, on va constater que non, la manière dont il a procédé pour être légal, c'est tordu.
Justement, est-ce qu'on peut dire même d'ailleurs qu'on occupe une réserve administrative légalement, Jacques?
Non, c'est-à-dire que l'État peut rétrocéder.
Voilà l'expression.
Parce que quand vous prenez par exemple la zone de Kilkamé,
oui.
Vous voyez à côté de l'université, vous savez que l'État avait rétrocédé les terres, voilà, au niveau pour les ayants droit. Mm-hmm. Donc ceux-là ont revendu les terres là. Donc si par exemple quelqu'un qui achète ce terrain et qui fait un titre foncier, là, il est dans sa légalité. Il n'a aucun souci. Mais si l'État ne retrocède pas une parcelle et que vous êtes allé faire un titre foncier, là, vous avez des problèmes.
Comment est-ce qu'on constate la rétrocession?
Oui, ça se constate par effectivement les papiers qu'on donne aux ayants droit.
L'arrêté alors.
Oui, l'arrêté. Merci. C'est les ayants droit qui
voilà. Vont. D'accord. Chers confrères, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat, puisqu'il est midi passé de 3 minutes. Nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs et aussi par après, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. Parole maintenant à nos annonceurs.
93.5. Canal FM.
Nous revenons en studio maintenant pour pour s'ouvrir à vous. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va chez vous?
Pardon,
c'est...
Irou,
voilà, allez-y.
Bon, je voudrais vous demander quelque chose. Quelqu'un qui a construit, il a quitté d'abord, il viendra Lomé. C'est un petit possédaire. Il fait près de 3 ans. Il dit qu'il veut quitter la location pour rester aussi dans sa propre maison. Il vient, il ne trouve rien, il voit que les propriétaires, c'est rien ici. On le vend le terrain. Il fait. 3 ans après, il fait encore un autre prêt. Il reconstruit depuis 97. Et 2017, il n'y a aucun panneau qui indique que c'est la réserve administrative. Et 2017, après 20 ans, la personne est dit là-bas. On vient lui dire maintenant. Qui est sur une réserve administrative et qui n'a qu'à quitter, que vous parlez d'occupation illégale. Par exemple, le mois 2, quand nous sommes venus depuis 1997, on sait que c'est une réserve administrative. Le terrain est toujours le résultat là-bas. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un à construire là-bas? Pourquoi dire la vérité? Nous sommes des Togolais. Nous devons vivre sur nous. Quelqu'un, la personne est à la retraite. Il n'a plus rien. Il est vieux. 65 années. Et on dit les gens qu'on lui donne un an, il n'a qu'à quitter.
D'accord.
Et vous parlez d'occupation illégale. Est-ce que ça, là, c'est occupation illégale?
Allô, Mourou? Il est parti, je pense que... Oui, mais voilà, je pense qu'il est largement compris. On va laisser la place à une autre personne. Allô? 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse et aussi sur notre numéro WhatsApp 90-45-78-57. Vous pouvez nous écrire à travers ce numéro. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour Pascal.
Comment vous allez?
Je vais bien, c'est Abdel.
C'est Abdel.
Je viens de suivre un représentant de CETEF.
Oui.
Je pense que ce fonctionnaire de CETEF, ce fonctionnaire surexcité de CETEF a manqué l'occasion de se taire. Si c'était juste pour nous dire que la dame a réglé ça à la mairie, c'était pas la peine qu'il appelle. Est-ce que à la mort, et le CETEF n'a pas eu des séances de travail avec la mairie pour définir le cadre dans lequel la mairie doit intervenir lors de cette fois. Lui, il n'est pas au courant pour pouvoir nous expliquer ce cadre, ou bien ça n'a pas été fait. Si ça n'a pas été fait, c'est une anomalie du CETEF.
il vient nous dire, au lieu de d'orienter bien la personne, il vient nous dire que la dame aille régler avec la mairie. Mais c'était pas la peine d'appeler alors. C'était pas la peine d'appeler.
Non mais Abdel, non.
Oui.
C'est vrai qu'il a d'abord situé, puisqu'il y a deux faits. Et il y a d'abord cette question même d'ailleurs de retard dans l'ouverture de la foire. Il a situé les faits. Et aussi pour ce qui concerne la corruption dont a été victime aussi la dame, et il a situé cela.
Pascal, tu conviens avec moi. On ne peut pas organiser une telle édition de la foire sans faire des séances de travail avec la mairie. Tu es d'accord avec moi?
Et c'est normal.
Voilà. Et lui, il doit pouvoir maîtriser ce que, c'est-à-dire les conventions qu'il y a eu entre la mairie et la CETEL, et pouvoir nous expliquer ça ici. Il ne peut pas dire que la dame aille régler ça avec la mairie. Là. C'était pas la peine. Si c'était pour sur l'heure d'ouverture et tout, c'était pas la peine d'appeler.
D'accord.
Il faut parfois poser les bonnes questions et mettre les gens devant les faits accomplis. Je pense que vous n'avez pas été, vous avez été trop doux avec lui. Il ne peut pas dire ça.
D'accord.
C'est n'importe quoi, là.
Ok. Merci beaucoup, Abdel, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et réagir dans l'émission Club de la presse de ce lundi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Et vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Écrivez-nous et réagissez bien sûr sur ces numéros 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien.
Votre nom c'est?
C'est Monsieur Wilfried.
Monsieur Wilfried, vous nous appelez de quel quartier?
C'est par rapport aux occupations illégales des réserves administratives. Là. Nous avons un souci à Garpanga. Monsieur Tchobier, il est allé occuper la réserve que la mairie a donnée à la police. Il a construit et il a baillé à la gendarmerie. Le lieu se fait, ça se trouve en face de l'immeuble Pederimo à Garpanga ici. Au même moment, la gendarmerie a sa réserve qui est à côté de la maison de justice. Vous voyez? Bon, nous sommes des citoyens. Si vous pouvez passer par les enquêtes pour voir ce que c'est en train de dire, c'est vrai ou bien c'est faux.
D'accord, merci beaucoup Wilfried pour votre intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment est-ce que ça va?
Ça va, et vous?
Oui, je vais raconter une histoire.
Pardon, votre nom c'est? Pardon, nous avons du mal à vous écouter. Est-ce que...
C'est mon nom ça.
Pardon?
C'est la loi qui construit le pays, c'est mon nom ça.
Décidément, je pense que nous avons du mal à écouter même notre ami. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la presse. Et également, écrivez-nous sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Et c'est sur ce numéro que vous pouvez nous écrire. Bien sûr, sur WhatsApp 90, 46, 35, 35. Allô? Allô, bonjour.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je me porte très bien.
C'est Armand.
C'est Armand, oui.
D'accord, allez-y.
Bonjour, le plateau. Oui. Il y a un bail. Juste pour dire que il est de bon ton que l'État puisse revenir un temps soit peu sur ses propriétés. Allô?
Oui, je vous écoute, Armand.
Oui, puisse revenir sur les domaines administratifs illégalement occupés. C'est vrai, aujourd'hui, on parle de tout ça, mais on ne nous dit pas concrètement. Et ceux qui ont été complices, les agents de l'État qui ont été complices, puisque c'est une enquête qui a été réalisée, ceux qui ont été complices de cet état de fait, qu'est-ce que eux, bon, qu'est-ce qu'on leur fait? Ou bien c'est une cuisine interne? Merci.
Merci Armand pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi. 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, maître directeur.
Oui, papa Sibiti.
Ah! Vous faites du bon travail. Je salue mes enfants d'un côté et les autres.
Merci beaucoup.
Je vous prierai de faire voir cette affaire de réserve administrative là. Comme quelqu'un venait de parler, ça fait 30 ans qu'il occupe là-bas. Celui-là, humainement, comment il va se comporter? Est-ce que ça ne va pas donner des décès aux gens? Si le président, notre président de la République, et l'urbanisme veut le voir, est-ce qu'il ne peut pas trouver quelque part ce qu'on devait leur faire, trouver là-bas pour faire ce qu'on voudrait faire, mon directeur Pascal? Ou bien est-ce que j'ai mal parlé?
Non, papa Sibiti, vous n'avez pas mal parlé.
Merci beaucoup.
C'est votre manière de voir aussi la chose. Et merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. Je pense que papa Sibiti, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Gosson, oui. Vous avez écouté les uns les autres, oui. Votre réaction?
Oui, on se doit de réagir. Surtout par rapport au premier auditeur qui a appelé, qui donner l'exemple d'un fonctionnaire qui a quitté Dapan.
Monsieur Mourou.
Voilà. Il habite déjà sur le terrain depuis au moins 20 ans. Je pense, à moins que ça n'ait été modifié, qu'il y a cette affaire d'occupation trentenaire qui fait d'un occupant du terrain le propriétaire. À moins que je ne me trompe. Je retournerai refouiller dans mes archives pour voir ce qu'il en est exactement. Parce que si pendant 20 ans ou 30 ans, une personne occupe un espace qui est censé être une réserve, soyons sérieux, les agents de l'État doivent le lui avoir signifié depuis. Autrement, ce serait comme si il était en face d'un abus. Donc, c'est à revoir et à approfondir. J'ai aussi adoré, j'ai failli lui envoyer un bisou sucré. Là, l'auditeur qui a parlé du sort qui doit être réservé aux agents complices de l'État, qui se sont rendus coupables qui ont favorisé ces occupations illégales. Pascal, soyons sérieux. Sans ces sanctions exemplaire, la gangrène va continuer. Elle ne sera jamais cicatrisée. Que tu sois au cadastre ou que tu sois à la mairie, à la division des services techniques, et que tu aies favorisé ces situations, mais il faut que, sans sentiment, que l'épée tombe. On doit te frapper parce que tu as abusé de tes prérogatives pour faire dans le faux. En temps normal, on doit normalement te rayer et ensuite te mettre à la disposition du parquet. Sinon, on n'aura rien fait. D'accord. Les agents complices doivent payer.
D'accord. Jacques?
Non, je crois que, parlant de ces agents complices, vous savez, Pascal, peut-être que certains ne sont même plus de ce monde, hein. Ça, il faut le reconnaître, parce que ce n'est pas aujourd'hui que les gens occupent ces réserves. Quelqu'un qui part de 30 ans, d'autres partent de 20 ans, 25 ans, est-ce que vous allez retrouver encore ces agents? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de décentralisation, on a des mairies. Avant, on n'avait pas des mairies des arrondissements, vous vous rappelez. Donc, dans d'autres villes, c'était des préfectures. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela devient? Donc, je crois que, moi j'ai dit une fois encore, c'est un mouvement d'ensemble qu'il faut faire, comme le disent les militaires. C'est-à-dire qu'on implique les chefs de quartier, on implique les responsables de CDQ, on implique les maires, on implique également les députés, hein, pour gérer vraiment ce problème. pour essayer de faire le répertoire de chaque quartier où les gens occupent effectivement ces réserves et voir effectivement ce qu'il faut faire. Parce que si on parle en vague comme ça aujourd'hui, Pascal, nous tous nous sommes en sursis. Parce qu'on ne sait pas qui occupe les réserves. D'autres, comme on l'a dit, ils l'ont acheté d'une façon claire et digne. Mais aujourd'hui, on constate que c'est des réserves. Donc, il faut vraiment une démarche d'ensemble et pédagogique, effectivement, pour aider les gens à mieux comprendre, à mieux cerner, effectivement, ce problème.
D'accord. Didi ? Non, je pense fondamentalement que, comme j'avais dit dernièrement, j'ai dit que c'est un fait que l'enquête a livré une conclusion. Maintenant, l'enquête nous a permis de nous rendre compte de l'ampleur du dégât, de la situation sur le terrain. Mais ce problème-là devrait être réglé au cas par cas. Et donc, pour y aller, il faut véritablement que, comme les uns et les autres disent, il faut questionner le code foncier, questionner même les pratiques qui ont déjà eu lieu, c'est-à-dire, par exemple, en matière de rétrocession. Il paraît même qu'il fut un temps des préfets rétrocédaient des terrains à des gens. Donc, ces actes-là, certains l'ont posé de par le passé et des gens l'ont utilisé. Les gens ont utilisé les documents-là pour aller loin et certains ont même des documents officiels, titres fonciers et tout. Donc, il faut faire ce travail-là du terrain, un mouvement d'ensemble pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qu'on peut corriger et qu'est-ce qu'on peut faire pour que, en même temps qu'on veut récupérer les domaines de l'État, on regarde aussi le côté social pour ne pas, on ne va pas jeter, comme on dit, le bébé et l'eau de bain. Voilà, il faut qu'on regarde de fond en comble ce qu'on doit faire pour que c'est vraiment l'ultimatum est là. Mais on est tous d'accord qu'on ne va pas aller mettre tout le monde dehors, on ne va pas remettre les gens dehors. Mais c'est pour ça que nous avons déjà dit que l'urgence, c'est quand même qu'on récupère les rues d'abord. C'est là où on a reconnu que là, la route doit passer par là. Il faut au moins qu'on commence par récupérer ces parties-là sur le pourcentage. Maintenant, les parties où il y a véritablement des lopins, où les gens ont construit et que l'État devrait récupérer pour avoir, qu'on essaie de voir qui ont les documents, qui n'ont pas les documents, qui a donné les documents, qui n'était pas autorisé à donner les documents. C'est un travail de fond qui doit être fait pour qu'on arrive à une décision finale pour régler définitivement ce problème.
Dis-y, je reste avec toi pour ta note de fin d'émission.
Je n'en ai pas, je passe.
D'accord. Gosson, note de fin d'émission. D'accord. Jacques?
Non, réitérer mon appel une fois encore pour les non-voyants.
Okay.
Demander à nos compatriotes de les assister suivant quand ils veulent traverser les voies.
D'accord. Jacques, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci à Gosson, Ketomanya, d'être passé aussi dans cette émission. Didier Assogba, grand merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour apporter votre contribution à cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain mardi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. Au revoir.